RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, la balade à Édimbourg est sans doute la préférée des supporters français qui raffolent de l'ambiance moyenâgeuse de la capitale écossaise, de son stade de Murrayfield où résonnent les accents de la cornemuse. Pourtant, la balade du week-end prochain ne sera ni une formalité ni un voyage d'agrément pour le 15 de France qui disputera sans doute son match le plus compliqué du tournoi. D'autant qu'une victoire lui ouvrirait toute grande les portes d'un grand chelem possible la semaine d'après contre l'Angleterre au Stade de France. Alors, surtout pas de blagues, messieurs les Bleus, on veut du sérieux, on veut de l'appliquer et un joli succès si possible, pas comme il y a 2 ans où il avait fallu patienter et se ronger les ongles pendant 5 minutes interminables après la sirène pour connaître le sort de ce match et la victoire des Bleus. Tiens, rappelez-vous.
3, 2, 1, montrez-nous à notre visage, messieurs, c'est parti. Le coup d'envoi donné par Finn Russell assez haut dans les 22 mètres français, la réception. Dans le dos, bail, l'extérieur, ça va être certainement. Est-ce que ça va être c'est Lefico qui va les plonger? L'essai signé Gaël Ficou, peut-être celui de la révolte à la 31ème minute. Il y a le béret, écoutez pas au-dessus. Attention à la vitesse,
oh non, il va.
Oui, c'est bien dit.
Le top total.
Incroyable, l'essai de Pierre Biarritz.
Wow. Attention, le Garek, il a été plaqué par Finn Russell, qui pense au plus. Il s'est jeté dessus, Finn Russell. Le ballon est pour les Écossais. La défense est bien montée, mais il est passé.
Incroyable.
Attention, il est tout seul.
Il s'est arrêté à 7 mètres de la ligne.
C'est Kyle Rowe. Oh, il est dans la butte. Attention, quelques centimètres encore. Est-ce qu'ils vont sortir le ballon? C'est fou cette fin de match avec 3 avant écossais. Est-ce qu'il y a essai ou pas?
Voilà, arbitrage vidéo demandé par Monsieur Berry. Alors, essai ou pas essai, Monsieur Berry? J'ai l'impression qu'il dit qu'il va pas y avoir essai.
Non,
il y est pas. Il y est pas. Les Écossais qui enragent. La confirmation, il n'y a pas d'essai. Vous entendez les sifflets, la bronca de Murrayfield qui ne comprend pas la décision de l'arbitre et les Français qui se jettent dans les bras les uns des autres. Incroyable suspense, incroyable final. La France qui s'impose, c'est un véritable hold-up ici.
1 à 16, miracle à la française. Mais que ce fut dur, incroyable, jusqu'à la dernière action où tout un stade pensait qu'il y avait essai et c'est refusé à l'Écosse. Et victoire de la France dans cette deuxième journée du tournoi.
Ouh là là, qu'on a souffert ce jour-là, Wilfried. On y était avec Denis. C'est vrai que les minutes ont été très longues après la sirène avant que l'arbitre finalement n'accorde pas l'essai aux Écossais. Mais on a tremblé quand même.
Il s'est pas fait que des copains ce jour-là, Nick Berry, l'arbitre australien à Édimbourg, parce que tout le stade pensait qu'il y avait essai. Il y avait une histoire de Possolo Tuilagi qui était en dessous, hein, si je me souviens bien, sous Skinner, je crois, le remplaçant écossais. C'était vraiment de l'interprétation. Alors, il y avait une histoire, souvenez-vous, je crois que c'était l'arbitre vidéo qui accordait plutôt l'essai et Nick Berry sur le terrain qui avait revu ça, qui a dit non, pour moi, il n'y est pas. Il y avait désaccord entre les deux arbitres et on avait gagné 20-16. Après avoir pris 40 points contre les Irlandais au Stade Vélodrome. C'était juste la semaine d'après. Voilà.
Oui, c'est vrai que le début de tournoi avait été un peu compliqué il y a 2 ans. L'équipe d'Écosse, dont on sait qu'il faut toujours se méfier, l'Angleterre, pourtant avertie, on a fait les frais il y a quelques semaines en subissant la loi de Murrayfield et de son génie, Finn Russell, véritable baromètre du rugby écossais. Les Bleus qui, pour l'occasion, retrouveront samedi prochain leur ouvreur Mathieu Jalibert, remis de sa gêne au mollet qu'il avait privé de la rencontre face à l'Italie. On fera le point de l'infirmerie dans quelques instants. En attendant, d'abord, permettez-moi d'accueillir tout le monde quand même, parce que vous avez entendu Wilfried. Nous avons également à nos côtés Julien Landry. Bonjour Julien. Et notre pompier de service, celui qui arrive pour sauver la patrie, il est toujours là, Cédric Aymon. Salut Cédric.
Il est là, bonjour à tous. Je fais bien le pompier, ça vous va? Ah, il a changé d'avis. Merci Wilfried, t'attaques fort Wilfried. C'est bien.
Salut Cédric, bienvenue. Et merci d'être avec nous.
Avec plaisir. Il nous a dit, oh là là, il finit de déjeuner Cédric, je ne sais pas dans quel état on va le récupérer.
Non, nickel. Non, je suis en période de sèche.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je m'en suis rendu compte ce week-end.
T'es un salaud, quoi.
Ah, tu as vu un peu comme je. Le maillot me va mieux.
Bon, alors, Édimbourg, la panse de brebis farcie, la cornemuse et surtout le whisky. Voilà ce qui anime nos poteaux dont la valise est déjà prête pour rejoindre l'Écosse. Wilfried, qu'est-ce que
c'est
tu...
Bien, en 2026, t'as arrêté les clichés.
Mais non, mais attends, franchement, la dernière fois qu'on est allé là-bas, Wilfried, on est allé manger quoi?
Ouais, on a peut-être goûté.
On a goûté, bien sûr qu'on a goûté. Le haggis, on adore ça.
On adore ça, c'est un grand mot, mais bon.
Non, mais c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais.
On n'y va pas que pour ça. Voilà.
On n'y va pas. Non, alors, si je vous donnais à choisir entre Édimbourg, Cardiff, Londres, Rome, Dublin, c'est quoi votre déplacement préféré à vous, messieurs?
Rome, c'est à part quand même.
Oui, c'est Rome,
avec
c'est
un
à part.
Peu de soleil, c'est à part. Hein, oui, franchement, oui. On y va tout le temps, si on peut chaque année. Non, mais Édimbourg, c'est une ville. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville magnifique, une architecture incroyable. Enfin, il y a le château. C'est vraiment. Ça a pas grand-chose à voir avec Cardiff, quand même. Hein. Cardiff, c'est plus les férias. Édimbourg, c'est un peu plus classe, quand même. Il faut le savoir, mais c'est à faire. C'est une ville sublime.
Bon,
ouais, c'est Cédric. Alors, en termes de stade, Cardiff est largement devant tout le monde, mais bon, on a vu face à l'équipe de France qu'il n'était pas plein, donc c'est dommage pour l'ambiance. Après, pour l'ambiance, la cornemuse, la gentillesse des Écossais, la façon dont ils ont de t'accueillir, et comme l'a dit Wilfried, l'architecture, c'est vrai que l'Écosse, si tu ne l'as jamais fait, c'est un moment extraordinaire. J'ai même l'impression que le temps s'arrête quand je suis en Écosse.
Ouais. Julien, toi tu préfères Cardiff, je le sais. Les pieds qui collent sous les chaussures à 6h du matin en rentrant à l'hôtel, c'est ça.
Non, mais depuis tout petit, le déplacement à Édimbourg, comme l'a dit Cédric, l'ambiance d'avant-match, ce plan sur le toit avec la dame et sa cornemuse, trouve que c'est un déplacement hors du temps. Et avec la ferveur qui accompagne le public écossais. Et puis malgré tout, voilà, pour le coup cette année, pour l'intérêt de la rencontre, je pense que tout est réuni là pour que ce match-là puisse marquer les esprits pour beaucoup de personnes. Mais oui, Édimbourg, ça reste en termes d'ambiance et d'avant-match exceptionnel.
C'est la place to be, ce sera la place to be du week-end. Et ce week-end ne va d'ailleurs pas déroger à la règle puisqu'il devrait y avoir un peu plus de 10 000 supporters français dans les rues d'Édimbourg, moustache au vent, saucisson sous le bras et béret sur la tête. Avant d'évoquer cette Écosse-France qui nous met déjà l'eau à la bouche, revenons d'abord sur le top 14. C'est la tradition dans les poteaux. On jouait ce week-end la 18e journée de notre championnat.
Zamora qui va dégager ce ballon en touche, victoire de Clermont. Ils confirment leur bonne forme du moment. En revanche pour Bayonne, les changements dans le staff pour l'instant n'ont pas engendré la réaction qui était attendue.
Et le bonus offensif en poche déjà provisoirement pour le Stade Français Paris. Après 37 minutes de jeu, le quatrième essai marqué par le Stade Français. Ça joue très bien à côté parisien cet après-midi. C'est bien le Stade Français qui s'impose. Avec bonus, 42-21.
L'essai du bonus pour les Montpelliérains et copier-coller des trois premiers essais lancés en fond d'alignement. Le groupe est pénétrant, désaxé et la puissance montpelliéraine derrière avec Christopher Tolofua qui vient de faire son entrée et qui va aplatir le quatrième essai des Montpelliérains qui s'envole au score. Et encore une victoire à plus de 40 points des Montpelliérains, Christophe, cet après-midi. 41-17 pour le MHR.
Pénalité de la gagne pour Martin Méliande sur la ligne des 40 mètres. Un dernier regard, il a la puissance. Non, il n'aura pas la puissance ni la précision. Et les Toulonnais qui vont se saisir du ballon et le sortir. Et donc voilà, 13-13 entre le Loup et Toulon.
Grande chevauchée d'Entamac avec ce petit jeu au pied pour aller chercher l'extérieur. On va y aller au 10e essai. On va y aller. Ils sont plus rapides que tout le monde avec Pouzelgue. Lancé par Entamac pour ce 10e essai des Toulousains aujourd'hui qui vont donc s'imposer 68-13.
C'est La Rochelle qui s'impose 31-26, 4 points de plus pour les Rochers, leur deuxième victoire à l'extérieur cette saison. Les Rochers qui reviennent à hauteur du CO, encore bien loin du top 6, mais qui va faire du bien aux Rochelais.
Les dernières secondes de cette partie qui va voir la section paloise s'imposer. Les Béarnais mènent 39-17, 5 essais à 3. En tout cas, victoire de Pau ce soir, c'est certain.
Voilà, petite journée de top 14. Ça n'a pas été la journée la plus excitante. On va désigner vos pires et vos meilleurs poteaux du week-end. On va peut-être commencer par ce qui vous a régalé. Wilfried, est-ce que tu as une image en tête, un joueur, une équipe qui t'a régalé?
Bah moi c'est Pau quand même parce que alors je comprends pas parce que j'ai écouté le podcast vendredi de mes collègues Pierre Thévenet et Arthur Jean qui avaient annoncé voilà la victoire de Bordeaux que Pau voilà devrait s'inquiéter pour sa qualif. C'est un petit joke, excusez-moi. Je les embrasse parce qu'ils veulent virer les vieux du podcast, donc voilà, autant quand on peut régler des comptes. Non, je plaisante, mais Pau, je m'attends, alors c'est peut-être aussi décevant pour Bordeaux, mais ce qu'a fait Pau encore, bah, même sans Broboiry, sans Gaëtan, sans Tissot B, qui sont quand même trois joueurs très importants en ligne de trois quarts, mais ils ont fait exploser Bordeaux, comme toutes les équipes qui viennent au Hameau au moment de deuxième mi-temps, sur l'intensité, voilà, et voilà, il n'y a pas eu de discussion, quoi. 39-17. Bravo Pau, on se disait ça avait, ils avaient perdu quelques points ces derniers temps, ils avaient pris 40 à Perpignan. Ah, Pau, est-ce qu'ils vont y arriver encore? Ben, ils sont toujours là, il va falloir les enlever de cette deuxième place. Ça peut faire un beau demi-finaliste Pau en fait, direct.
Un demi-finaliste direct, donc tu le vois dauphin du Stade Toulousain à l'issue de la saison.
Ça peut faire.
Ouais. Cédric, t'en penses quoi?
Moi je vais retenir les deux ouvreurs, celui de la section paloise et celui de Clermont. La section paloise, le jeune ouvreur 21 ans qui Desperes exactement, qui a maîtrisé un jeu au pied parfait tout au long du match, qui a su animer, il est en train de monter en puissance, de s'installer, il arrive à faire jouer cette équipe sous les ordres de Piccheroni. C'est vraiment, je me suis régalé à le voir jouer. Vraiment, cette maîtrise, en plus avec ce visage enfantin qui maîtrise totalement son sujet. Et il y a le renouveau de l'ouvreur Clermontois, on va dire, qui a fait une drôle de partie, fin de schisté, je prends l'intervalle, je marque. Et ça, c'est à l'image de ce club qui est en train de se réveiller. On les voyait très forts sur les ballons portés, un rugby un peu restrictif. Et là, ils ont envoyé du jeu et ça leur a souri. Au début de saison, ça marchait pas. Et là, j'ai l'impression que le fameux déclic est en train de se passer du côté de l'Auvergne.
Très bien. Julien, qu'est-ce que tu retiens de ce week-end?
J'avais beaucoup aimé aussi Axel Desperes. Je trouve qu'il monte en puissance et c'est impressionnant comment il arrive à enchaîner les performances à son jeune âge. Et on rappelle, appelé pour la première fois à Marcoussi, les Palois s'inquiétaient de la blessure de Simon à un moment. Mais il est en train de prendre sa place. Mais hier, il a une maîtrise. Les 2,50-22 qu'il fait, ils sont exceptionnels. Mais pour ne pas parler des Palois, non, je voudrais saluer la performance de Florian Vérag, le Montpellierain, qui revient lui aussi à un niveau international, qui a à l'image de cette équipe montpelliéraine destructeur. Ouais, et puis non, mais alors il y a l'histoire, parce que j'ai pu discuter un peu avec Florian Vérag après match. En fait, il avait pris un carton rouge au match aller du côté du Racing parce que Nathan Hugh, le troisième ligne, avait un peu simulé un déblayage à l'épaule de Florian Vérag, et Florian Vérag avait été un peu au placard derrière. Et avant match, il avait dit: Nathan Hugh, j'en fais mon goûter cet après-midi, vous inquiétez pas.
Oh.
Non, mais c'est vrai, il a fait 10 plaquages.
Je le connaissais 6... pas comme ça, je l'ai encadré avec les cravos au stade, je le connaissais pas comme ça quand même.
Exactement, et donc il a fait 10 plaquages, 6 sur Nathan Hugh, il a passé son après-midi à aller découper son vis-à-vis du Racing Man, et il a fait une performance majuscule. Le petit côté revanchard a porté Florian Vérag, c'était assez exceptionnel ce qu'il a fait de Nathan Hugh toute son après-midi.
Voilà, Montpellier troisième, du top 14, Julien.
Ouais, là,
Oui, alors après, les calendriers font que maintenant ils ont deux déplacements à Clermont et à Toulouse. Mais oui, ils sont installés en haut, ils ont une dynamique ultra positive, et puis ils sont surtout ultra dominants devant. C'est un rouleau compresseur en ce moment devant. C'est assez impressionnant la manière dont ils sont en train de rouler sur leur adversaire, physiquement en tout cas devant.
En tout cas, ça va être très serré, parce que là, entre Montpellier, troisième, même Pau, deuxième, 55 points, jusque la septième place, Toulon, 45, il y a 10 points, il y a un paquet d'équipes qui vont donc se disputer les places qualificatives pour les playoffs, ce championnat, et on ne peut plus serrer. Alors, il y a des choses qui nous ont marquées, qui nous ont régalé ce week-end, il y en a d'autres un peu moins. Wilfried, qu'est-ce que tu retiens de négatif de cette 18e journée du top 14?
Bayonne qui comment se tirer une balle dans le pied dès le début
balle,
de la saison, et oui, c'est plus une balle,
hein.
Comme tu dis, avec malgré tout, moi je les ai vus à Toulouse il y a quelques temps, pendant le début du tournoi, là ils avaient été sur l'engagement, ils y étaient, et c'est ce qu'ils avaient souligné, mais là à Clermont, c'est là qu'on voit la dynamique entre deux équipes, c'est quand même incroyable sur le résultat d'un match, quoi. Et 38-15 à Clermont, et on les sent paumés. Où est le demi-finaliste de l'année dernière, quoi? Il y a 8 mois, ils étaient demi-finalistes, et là Bayonne, ils savent plus où ils habitent, quoi, en fait. Et comment ça se fait? On s'est foutu le bordel. peut-être que Grégory Patin n'a pas su travailler avec Laurent Travers, mais peut-être que le président Taïeb a tout fait à l'envers en mettant patate devant des choses quoi. Voilà. Toi, on verra quand tu vas te prolonger. Lui, ton adjoint, il prolonge plus que toi. Tiens, dans deux ans, tu vas voir Thibaut Giroud. Tiens, Laurent Travers, il avait plus la main quoi. Il se sentait plus patron, Grégory Pata. Le groupe était avec lui, ça tombe mal. Et voilà, derrière, bon, il va falloir du temps. Peut-être que Fraser et Travers vont trouver des solutions sur la fin de saison. Mais ça fait 7 défaites de suite.
Comment tu peux te saboter de la sorte après la saison, ont fait la saison dernière? C'est incroyable. Non, franchement, je pense que le président a de grosses responsabilités là-dedans. On va peut-être lui envoyer Yannick Bru pour régler tout ça. Non, c'est pas une bonne idée.
C'est pas une bonne idée.
La bonne personne.
Non. Donc voilà, Bayonne, va aller à Montauban prochaine journée. Et en plus de grosse pression, ils reçoivent La Rochelle à Noëtta, il me semble, en plus dans la foulée. Faut reconstruire maintenant. Mmh. C'est un peu des ruines et vous imaginez d'une saison à l'autre. Demi-finaliste, 12e actuellement. Donc pour moi, je trouve ça triste.
C'est très triste, tu as raison de le signaler. Cédric, quelque chose ne t'a pas plu ce week-end?
Castres, ils avaient l'occasion de faire une superbe fête.
Tu parles
à
La Rochelle quand même.
120 ans, je crois que c'est ça. C'est le club, les 120 ans du club. Ils avaient de quoi faire une énorme fête. On les avait trouvés séduisants en Coupe d'Europe. Ils avaient un jeu plutôt flamboyant. Ils étaient en train de rentrer dans les 6, s'installer. Et puis là, panne. Un vrai non-match de la part de cette équipe. Et puis j'ai trouvé sans solution. Alors, bien sûr, il y a un adversaire qui les a fait déjouer. Ils ont été sous la pression des Rochelais. Mais je les ai trouvés sans solution. Après, de là à revenir sur les déclarations de Gara qui dit qu'il y avait au moins 30 points d'écart, je ne pense pas. Mais là, ils se sont fait attraper sévèrement par La Rochelle. Ouais.
J'ai pas voulu parler de La Rochelle
parce que je t'entends rigoler.
Angèle. Non, c'est Ogara qui me fait sourire. Mais juste La Rochelle qui a fini, et j'en parlais avec mes collègues ce matin, avec une deuxième ligne, Aldrit Boudéan quand même, avec le nombre de blessés, y compris ils arrivent à blesser Bourgarit à l'échauffement. Donc ils ont surpris beaucoup de monde, La Rochelle, ce week-end.
Ouais, pour une fois, dans le bon sens du terme, ça n'a pas toujours été le cas ces derniers temps. Julien, tu vas conclure avec quelque chose qui t'a pas plu ce week-end?
Non, mais alors c'est pas pour les enfoncer plus qu'ils sont déjà enfoncés, mais ça devient presque risible, Montauban. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils se déplacent maintenant, on se demande combien l'équipe adverse va prendre de points, va en encaisser. Moi, c'est ça qui me gêne. Alors après, voilà, qu'ils soient dépassés, tout explique. Mais les essais qu'ils prennent à Toulouse samedi soir, c'est des essais que des cadets prennent même pas. Théo Ntamack, qui part au ras du 8, qui accélère, t'as l'impression qu'il fait un petit footing. Il déborde la défense de Montauban. Il tape un coup de pied à suivre. Il y a personne dans le rideau profond et c'est un essai. J'ai l'impression que ça devient presque un peu ridicule aujourd'hui, Montauban, dans notre championnat. Il faut qu'ils se ressaisissent parce que déjà, je pense que la saison est longue, mais il faut pas que ça devienne une humiliation chaque week-end d'en prendre 60 ou 70, quoi. Je trouve qu'au bout d'un moment, il faut essayer de se ressaisir et sauver ce qui est capable de sauver, même si évidemment à Toulouse c'était très compliqué,
mais ils auraient pu faire un peu mieux. C'est étonnant pour ce club qui a des vrais. Pour ce club qui a des vraies valeurs, au moins d'engagement. Il est vrai que sur Toulouse, tu sens les joueurs dépités, ils lâchent l'affaire au bout du troisième essai. Ils savent qu'ils vont en prendre déjà et peut-être qu'ils se doutaient forcément avant d'arriver à Ernest Vallon. Mais c'est vrai que dans l'attitude, on a senti des joueurs résignés. Et ça, c'est étonnant parce que les valeurs de Montauban ne sont pas là. Mais ça doit être compliqué. Rappelez-vous Perpignan ou Agen qui avaient des séries pareilles. C'est compliqué. Peut-être qu'ils se concentrent uniquement sur les matchs à domicile, à accrocher, mais l'effectif ne leur permet pas de tout colmater. Quoi.
C'est la preuve que le mode d'accès au top 14 n'est pas le bon et qu'il faut que ces équipes qui postulent au top 14 aient le temps de se préparer justement à accéder à l'élite. Là, on rappelle, Montauban, ça s'est fait vraiment pas dans la précipitation, parce qu'ils ont remporté leur match, mais ils n'étaient pas du tout prêts à jouer le top 14. Et chaque fois qu'une équipe n'est pas prête...
L'année dernière... L'année dernière, pardon de te couper, mais l'année dernière, Montauban, tu te dis, ils vont en déplacement à Brive, ils ne doivent pas gagner, ils gagnent parce qu'ils font un match parfait, ils arrivent en finale, ils le gagnent. C'est-à-dire que ton recrutement, tu ne l'as pas anticipé, ton budget, tu ne l'as pas.
Regarde ce qui s'est passé, Van l'année dernière avait anticipé le truc, exactement. Et ils ont lutté et ils ont vraiment donné une belle image d'eux l'année dernière, même s'ils sont redescendus, mais au moins ils ont donné le change, ce que ne peut pas faire Montauban parce qu'ils n'étaient pas armés pour le faire. Et je pense malheureusement que ça va durer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Je vois pas ce qui pourrait les sauver. Je vois pas comment ils pourraient retrouver d'un seul coup le feu sacré, Wilfried.
Non, bah, y a rien, aucun signe. Puis alors là, ça commence à parler de recrutement, de départ, de choses comme ça. Donc, faut surtout pour eux bien construire la saison prochaine, quoi.
Parce que ça peut descendre pas de vite doute, National 1.
Bah, j'ai pas jusque là, mais d'ailleurs, attention. Pour pas avoir une deuxième saison, pas galère, mais de pas jouer le haut de tableau de la Pro D2, quoi.
Non, mais faut pas oublier que Montauban s'est maintenu sur le match d'accès pour pas descendre en National, qui monte en top 14 l'année d'après. Attention de pas faire le chemin inverse.
Ouais. Regardez Van qui descend. Le début de saison en Pro D2 a été complexe. Hein. Bon, même si là, ils sont revenus, ils caracolent en tête, mais le début du championnat a été dur. Hein. Ouais. Si t'as pas un effectif qui est rodé à cet exercice de la Pro D2, remonter, c'est complexe.
Ouais. Bon, et ben le top 14, on va le laisser de côté pendant deux week-ends. Il va faire relâche, vacances pour les uns, un peu de travail pour les autres. Et donc, eh bien, un nouveau place au tournoi qui entre donc dans sa dernière ligne droite avec, pour commencer, ce très alléchant Écosse-France. Cette dernière ligne droite que les Bleus abordent avec gourmandise en rêvant de deux nouveaux succès qui leur offriraient évidemment le Grand Chelem. Avant de rêver de gloire et d'un 11e Grand Chelem, il va d'abord falloir enfiler le bleu de chauffe, hein, messieurs, parce que aller défier l'Écosse, ce n'est peut-être pas aussi prestigieux que d'aller battre l'Irlande ou l'Angleterre, mais on a pourtant l'impression, Cédric, que c'est le match le plus difficile de ce tournoi qui nous attend samedi à Murrayfield. On dit ça parce que c'est celui qui arrive, ou on le pense vraiment ?
Non, je le pense réellement parce que pour gagner le tournoi, il te faut une victoire bonifiée. L'Écosse, mais quelle Écosse on va trouver en face de nous ? Est-ce que c'est l'Écosse qui a joué en Italie ou c'est l'Écosse qui a joué face à l'Angleterre? C'est l'inconnu, on va dire. C'est l'équipe qui est imprévisible. C'est l'équipe qui risque de nous jouer le plus parce qu'ils ont cette capacité à sortir un rugby un peu... j'ai pas envie de dire champêtre, mais un rugby où ça peut partir aux quatre coins du terrain. C'est moins
champagne
structuré
plutôt
que les autres nations. Et tu as... Ouais, champagne, merci.
Champagne, ça le fait aussi. Hein.
Et ouais, champagne, ça le fait aussi. Mais ils préfèrent l'alcool, on le sait bien.
Ben oui, on a bien compris.
Et après, tu as un Finn Russell qui peut être dans un bon jour et mener cette équipe parfaitement. Et s'il n'est pas dans un bon jour, voilà, ça peut passer à côté. Moi, j'en ai vraiment peur parce que je ne sais pas à quelle sauce et quelle équipe va arriver face à nous. Tu sais que sur la touche, tu es plutôt bon. Tu sais qu'en mêlée, ils ont souffert eux aussi face aux Italiens. Mais nous, on n'était pas sereins face à l'Italie. On devrait quand même avoir la maîtrise de la mêlée fermée face aux Écossais. Je suis ravi du retour de Jalibert parce qu'on a vu face à l'Italie le manque de vitesse qu'on a pu avoir dans les enchaînements quand Ramos se met en 10. Voilà, on a tous les voyants sont ouverts, mais méfiance parce que tu as le gain du tournoi dans ta poche, la possibilité de l'avoir. Il faut marquer 4 essais. Est-ce qu'on va se précipiter pour vite marquer? Voilà, dans la stratégie, il va falloir être prudent.
Et puis il y a l'ombre du Grand Chelem juste derrière avec la venue de l'Angleterre au Stade de France une semaine après. Ça, il ne faut pas y penser du tout. Il faut surtout penser à battre ces Écossais. Ce sera quoi le plus dur, Wilfried, pour toi? Battre les Écossais à Murrayfield samedi ou battre les Anglais pour le Grand Chelem la semaine d'après?
Battre les Écossais à Murrayfield parce que je pense que si on y arrive... Bon, il peut pas. C'est pas qu'il peut pas nous arriver grand chose, parce qu'il faut toujours rester méfiant. Non, mais vous imaginez la dynamique qu'on a. Si on arrive avec 4 victoires, Stade de France, Grand Chelem possible, 80 000 personnes derrière. Les Anglais, ils n'avaient pas résisté
face
en 2022.
Face à notre ennemi héréditaire en plus. Oh là 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 là, quel bon.
Ils n'avaient pas résisté en 2022. Ils nous avaient beaucoup embêtés il y a deux ans.
Les matchs à pression
à Lyon. Oui. Oui.
Oui, je disais les matchs à pression, on les a rarement gagnés. Hein. Les matchs couperés. Je parle pas de l'Écosse, je parle de l'Angleterre sur un dernier match à pression. ça peut.
Tu parles de quand
pour le Grand Chelem, c'était la même configuration.
Je suis d'accord avec toi, Cédric, parce qu'il y a deux ans, pour le Groupama Stadium, pour la deuxième place, on les bat. Et pour le Grand Chelem, il y a quatre ans, on les bat. Sur le dernier match, on a eu des difficultés.
Mais moi, j'ai surtout en tête la.
À l'époque où tu
jouais, la Coupe du Monde, tu vois.
Ah oui, mais c'était l'Afrique du Sud. Non, mais c'est là, si chose, tu joues l'Afrique du Sud pour gagner le tournoi d'estimation, effectivement,
moi, pas je pareil. Moi, je parle de contexte de match. Je parle de contexte de match.
Bah oui, mais les derniers, alors tu t'arrives à la Coupe du Monde, je te dis, t'en as trois où on a gagné. L'Angleterre, Grand Chelem 2022. L'Angleterre, pour avoir la deuxième place en 2024 à l'issue d'un tournoi difficile, mais c'est sûr que c'est une pénalité de Ramos qui donne la victoire, mais on le fait. Et l'année dernière, face à l'Écosse, pour gagner le tournoi aussi. On peut ajouter ça, dernier match au Stade de France, même si ça n'avait pas été si facile. On gagne 35-16, mais ça n'avait pas été si facile que ça. Il y avait 16-13 à la mi-temps pour la France.
Non, mais le plus dur, Christophe, c'est évidemment l'Écosse. Déjà, rien qu'en adversité. Si on regarde sur quoi on peut se baser, les deux confrontations des clubs franco-français en Écosse, à Glasgow et à Édimbourg, Toulouse, on se rappelle cette défaite alors qu'il menait à la mi-temps et il s'incline lourdement. Et Toulon a aussi explosé du côté des provinces écossaises. Aujourd'hui, l'équipe écossaise est composée à 100% quasiment de joueurs qui jouent dans ces deux provinces. Donc ces deux provinces ont l'habitude de jouer ensemble. Ils ont aujourd'hui une ligne de trois quarts, on va en reparler, qui est extrêmement séduisante. Et puis surtout, moi je trouve qu'ils ont le jeu typique pour embêter les Français, avec du rythme, du mouvement. Ils vont vouloir garder le ballon longtemps. Ils vont essayer de nous breaker la défense. Je pense que c'est la première fois. C'est un niveau au-dessus de l'Italie qui, je trouve, avait par moments réussi à nous embêter dans les animations offensives en allant breaker au milieu du terrain. Et je trouve que ça manquait de génie derrière avec Garbissier, il manquait de puissance. Je trouve que les Écossais ont cette capacité au milieu du terrain de nous faire très mal avec Jones et Tupulu, et que derrière ils ont la capacité de nous embêter. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment un gros test pour Fabien Galthié et ses hommes.
Le gros test donc pour Galthié et ses hommes.
Un autre paramètre, c'est la composition, de l'équipe de France. Est-ce que on va alourdir la seconde ligne ou est-ce qu'on va rappeler les deuxième ligne, troisième ligne pour les faire courir? Ah là, excusez-moi.
Il veut tout nous dire.
Mais il a pas le fil conducteur dans la tête.
J'arrive en pompier, donc. Mais non, je suis là en pompier, donc d'habitude je prépare mes émissions.
Du coup, il est chaud.
J'appelle
Wilfried. Il arrose de partout.
Tu dois dire ça, mais dis pas ça. Voilà.
Tu sais quoi ? Il faut surtout que tu prépares un peu mieux les jeux du sport, histoire qu'on gagne la prochaine fois. Hein. Ça, je te le dis. Bon, alors.
Non, mais t'avais la balle de match, je signale entre les mains. C'est pas moi qui l'ai perdu, même si je reste.
Hors sujet, messieurs.
Mais là.
Alors, revenons quand même sur cette équipe écossaise qui, souvent, lorsqu'elle joue à domicile, est transcendée à la fois par le Flower of Scotland qui est joué juste avant le début du match à la Cornemuse. Et souvent, d'ailleurs, ils débutent leur match pied au plancher. Et il faut toujours se méfier de l'entame écossaise. Les Anglais l'ont appris à leur dépens. Hein. Lors du match, ils ont pris deux essais en moins d'un quart d'heure. Comment essayer de juguler ces Écossais dans un premier temps? Parce que ça va partir dans tous les sens, hein, Julien, sans doute.
Oui, ce que je dis, Ali Price disait ce matin dans Midi Olympique, le demi de mêlée de Montpellier qui n'est pas appelé, pour battre cette équipe de France, il faut les attaquer, il faut mettre du rythme. On sait que, on en parlera après la composition, mais évidemment si on est massif, ils vont vouloir nous déplacer, ils vont vouloir évidemment enflammer la rencontre, nous mettre le doute, eux et se rassurer. Évidemment qu'il faut s'attendre à une entame d'enfer de la part des Écossais, avec un Finn Russell qui va attaquer tous les ballons qu'ils vont avoir. Ils vont venir nous faire la guerre dans les règles. Et puis n'oublions pas qu'ils sont filous. Hein. Ils vont venir, on se rappelle qu'ils avaient provoqué Mohamed Awas à plusieurs reprises jusqu'à ce que le pilier montpelliérain explose il y a deux ans. Ouais, et là, ils vont faire pareil. Hein. Ils sont filous aussi pour aller au bord des rucks, mettre les mains là où il ne va pas falloir mettre les mains. Donc oui, ils vont tout mettre les ingrédients pour embêter les Français avec, tu l'as dit, effectivement, d'abord, je pense, une entame énorme pour essayer d'asphyxier les Français et les prendre à la gorge.
Ouais. Donc
puis là, l'équipe de France elle a la vocation d'être une équipe joueuse, donc une équipe qui joue, qui aime tenir le ballon. Elle déteste avoir en face d'elle une équipe qui joue de manière désordonnée, parce que Finn Russell, il peut abuser aussi des coups de pied en diagonale pour aller chercher ses ailiers. Il peut te mettre la tête à l'envers en 10 minutes, un quart d'heure, hein. Ouais. Ça, alors, c'est une certitude.
Alors justement, parlons de Finn Russell, parce que il est quand même le baromètre du jeu écossais. Et quand Finn va, c'est toute l'Écosse qui sourit, et quand il est en dedans, c'est le charbon Chardon qui ne pique plus. Il est le joueur essentiel de cette formation et peut-être même plus important pour l'Écosse que Dupont peut l'être pour la France. Vous êtes d'accord avec ça?
Ouais, ou kiff kiff.
Oui, parce qu'il y a moins de passion autour.
Non, mais oui, oui, comme tu dis, c'est le baromètre. Mais alors, après, je sais pas, on va en parler, mais je le trouve, ça fait pas mal de fois que je le dis, je le trouve bien plus constant quand même. Mmh. Ces derniers
moins
temps,
fantasque.
Ça a dû lui faire un. Ouais, bah, ou. Non, mais des fois il avait des trous. Tu te dis pourquoi il a fait ça, quoi. Il y a deux fils qui se touchent à un moment dans le match. Je ne sais pas si ça lui a fait du bien, les Lions, cette tournée avec les Lions en plus. Et après, c'est un joueur mais extraordinaire, quoi. C'est un créatif. C'est il peut nous surprendre. On peut être surpris. On ne sera pas tranquille samedi en fait face à l'Écosse avec un joueur comme ça, quoi. Il peut sortir des choses, des placements. Cette double fin de vous regarder. Il a cette double fin de passe qui fait. Souvent, il peut sortir la sauter d'un côté ou de l'autre, le coup de pied de déplacement, en regardant d'un côté, en jouant de l'autre. Il y en a plus beaucoup des joueurs comme ça, en fait.
Et puis le coup d'envoi contre les Gallois,
oui,
il est capable aussi d'inspiration en se disant, on rappelle cet essai, les Gallois viennent de marquer une pénalité, ils se replacent tranquillement, Finn Russell voit qu'il n'y a personne au fond du terrain, il tape, et c'est les Anglais et les Écossais marquent un essai, il revient à 4 points.
Darcy Graham,
donc il a aussi du coup ce côté parfois. Alors c'est vrai, je suis d'accord, je le trouve moins loufoque qui pouvait être dans les matchs. Je pense que le côté basse aussi très britannique, ça fait du bien. Mais oui, c'est un joueur qui va faire peser un danger permanent. Et puis surtout, on a tendance à l'oublier. Moi, je trouve, c'est quand même un excellent buteur qui tourne à plus de 90% avec l'Écosse. C'est-à-dire qu'il peut être capable aussi, comme Ramos d'ailleurs, de sanctionner la moindre faute des Français. Alors, on est extrêmement fort en termes de discipline sur ce début du tournoi. Mais voilà, si on est sous pression et que les Écossais nous mettent sur le reculoir, Russell, il peut aussi enquiller des points de n'importe quel côté du terrain parce qu'il est extrêmement précis face aux perches.
Donc, méfiance.
On va avoir deux ouvreurs parce que Jalibert, Jalibert, c'est ce que lui reprochait d'être fantasque. Il a cliné son jeu. Finn Russell, pareil. Est-ce que les deux vont pas se donner un challenge à se dire qui va sortir le truc le plus énorme sur le match, qui va être le plus
Non
mais ça peut ça, parce qu'ils aiment le petit jeu au pied.
Je suis pas sûr que Fabien il apprécie que Jalibert ait envie de faire un truc très fou.
C'est un challenge avec Russell. Je pose des questions moi.
Je suis pas sûr que Fabien il dise à Mathieu ouais vas-y essaye le truc le plus loufoque possible, vas-y.
Ouais, le petit coup de pied par dessus sur les 40, vas-y.
Ouais, vas-y, régale-toi.
Mais nous on aimerait nous on aimerait bien quoi, un petit challenge entre les deux. Ça nous régalerait ça.
Par match encore, même avec Fabien, il arrive à le faire quand même une fois par match.
Bon. C'est vrai.
Alors Finn Russell, joueur vraiment à part, Julien, qui en plus est une véritable superstar dans son pays, même s'il joue en Angleterre, il est rétribué d'ailleurs comme une superstar, hein. C'est sans doute le joueur écossais le mieux payé, largement mieux payé que les autres, hein.
Mais pas qu'écossais, c'est le joueur le mieux payé au monde aujourd'hui. Il est marquee player du côté de Bass, il touche un peu plus d'1 million d'euros sur l'année, payé par les Anglais de Bass. Il est aujourd'hui numéro 1, largement devant Antoine Dupont, largement devant Colby, largement devant les Sud-Africains.
Oui.
Non, mais du coup, c'est vrai que les Anglais ont une politique différente de nous avec
Comment il était rémunéré ?
Hein ?
On a étudié son contrat, comment il était rédigé.
Dupont, je dis sur les chiffres, il est moins bien payé que Finn Russell. Après,
il
on n'a pas.
Non.
Mais donc, Finn Russell, c'est le joueur le mieux payé. Alors, évidemment, Bass avait cassé la tirelire, mais il est récompensé parce qu'aujourd'hui, Bass, c'est la meilleure équipe d'Angleterre. Elle a gagné le challenge européen la saison dernière avec Finn Russell. Ils font partie des favoris cette année pour être parmi des prétendants pour la grande Coupe d'Europe. Et il leur a fait faire le doublé la saison dernière en championnat, donc voilà, il est rétribué aussi à hauteur de ce qu'il apporte à l'équipe de Bass, mais c'est aujourd'hui le joueur le mieux payé effectivement au monde, et il fait rêver évidemment tout le peuple écossais qui compte sur lui ce week-end pour casser la dynamique des Français.
Comme quoi, hein, Cédric, ça sert d'être loufoque de temps en temps, hein. Bien payé quand on est loufoque.
Moi je suis pour, les artistes, faut les laisser, voilà.
Bon. Non mais en plus il y a eu des moments chauds avec enfin froids plutôt avec Greg Thompson, hein, le sélectionneur, hein, qui l'a boudé aussi à une époque. Bon, est-ce que Finn Russell faisait tout en ce qu'on appelle la préparation paisible. Il faisait tout bien, pas sûr du tout. Donc,
il avait le petit ventre qui nous montrait qu'il n'avait pas compris qu'il fallait faire les choses invisibles pour que ça marche.
Il se rapprochait plutôt d'un petit coude à une époque.
Non, mais il y a une période difficile en 2024.
La compréhension de l'air à Cédric Emmons avant qu'il attaque la fonte. Hein.
Ouais, voilà, ça y est. Mais laissez-moi tranquille. J'ai qu'un problème de taille, j'ai pas un problème de poids. Voilà.
Donc, ils se sont parlé. Je continue, hein, les gars.
Ouais, vas-y.
Ils se sont vraiment parlé. Et tu peux pas te priver d'un talent comme ça. C'est pas possible. Mais il a été pointé du doigt un moment. Et oui. On a des images de Finn Russell en top 14 dans le vestiaire avec sa bière à la main. C'est pas les Sud-Africains à la sortie d'une séance de physique qui font la photo avec les tablettes, quoi. C'est vrai, mais il est comme ça. On le prend comme il est, Finn Russell, et il est pas si mal. Loin de là.
Exactement.
C'est possible pour tout le monde, tu vois.
De quoi? De boire une petite bière après un match, ouais. Ouais, c'est possible.
Non, non, de pas avoir les tablettes. On est tous concernés ici.
Alors, d'autres joueurs qui valent le coup. C'est vrai qu'on tu en parlais tout à l'heure, Julien. La ligne de trois quarts de l'équipe d'Écosse n'a vraiment rien à envier à celle de l'équipe de France. Hein. On se demande d'ailleurs quelle est la meilleure des deux. Hein.
Ah ben, si on fait mon jeu, Julien, avec les meilleurs joueurs, mon Philippe, je te salue. Non, je sais pas si on prend plus d'Écossais que de Français. Non,
mais il y a des vrais. C'était Philippe,
s'attendrait. Hein. Oui, il y a des vrais.
Ouais, parce que moi, j'ai pas reconnu, je crois que c'est un humoriste.
Ouais, attends, Cédric, mon fifi. Hein.
Ah ouais, pardon.
Non, mais Van der Merwe, l'ailier, par exemple, est très fort. On a parlé de Yoon Jones aujourd'hui, qui est peut-être l'un des meilleurs centres au monde. Non, ils ont une qualité d'effectifs aujourd'hui. Alors, ils sont peut-être un peu moins denses que nous devant, mais derrière, c'est une équipe qui tient la dragée haute avec l'équipe de France en termes de qualité, de potentiel et de volonté de jouer.
Ouais, mais
je pense que nous, on sera un peu plus à l'aise sur la rapidité. Pardon, Wilfried, on sera plus à l'aise en termes de vivacité, mais en termes de poids au milieu du terrain, je pense qu'on est... un peu en dessous des Écossais sur la qualité chercher ce milieu de terrain qui est vraiment costaud et joueur. Donc,
mais pas que le milieu, Cédric. Pas que le milieu. Ils ont, quand tu fais Van der Merwe et Kyle Steen de l'autre côté, et tu rajoutes Blair Kinghorn qui fait 4 mètres de haut à l'arrière, Tuipolutu, oui, ouais, c'est très puissant au milieu.
Ouais, mais je donnais la prime à la vitesse sur les ailes. On va très très vite, peut-être plus vite qu'eux. Oui, je suis d'accord avec. Blair Kinghorn qui est grand et sur les ballons hauts, mais ça a pas d'énorme vitesse, ça va vite, mais je pense que nous on peut jouer sur la vivacité, mais si sur tous les impacts tu charges au milieu de terrain, ça peut devenir compliqué pour installer ton jeu. Je pense qu'il va falloir prendre un peu de retrait, les laisser venir à nous et les déborder sur la largeur.
Mais c'est Kyle Steen, c'est le joueur qui a battu le plus de défenseurs dans le tournoi, 16 en 3 matchs. Alors vous connaissez les qualités de Van der Merwe, qui est revenu sur le dernier match, mais Kyle Steen de l'autre côté, c'est énorme.
Darcy Graham sur le banc qui va très vite.
Ouais, on va peut-être plus vite. Mais alors eux, si on est pris dans les vagues écossaises là. Alors ils annoncent, regardez, c'est important. Hein. Pour l'instant, ils annoncent du beau temps sur Édimbourg samedi. C'est important parce qu'on sera peut-être un peu moins arrosé au pied et qu'on peut voir un fantastique feu d'artifice sur ce match entre ces deux équipes. Mais attention à la ligne de trois quarts des Écossais.
Cédric, c'est un vrai test. Wilfried,
t'as été souvent. Oui, je veux dire, Wilfried, t'as été souvent en Écosse. Ils t'annoncent beau temps. Pour eux, c'est du crachat avec du vent. Donc, tu vois, c'est pas.
Non, c'est vrai que je trouve que c'est un vrai test pour la ligne défensive française. On sait que avec le retour de Mathieu Jalibert, on va forcément s'adapter. Mathieu Jalibert va aller défendre en 13, donc loin sur les extérieurs, mais en plein milieu du terrain, où les Écossais vont venir le chatouiller, très clairement. On sait clairement le plan des Écossais. Wilfried a parlé de ses ailiers qui sont capables de casser des plaquages. On sait que Hugh Jones, ils vont tous aller attaquer la zone de Mathieu Jalibert. C'est un vrai défi pour Mathieu Jalibert ce week-end, pour qu'il prouve en tout cas son vrai axe de progression en termes de défense.
Oui, parce que dans le tournoi, ses plaquages en 1 contre 1, il les a réussis. Il a fait pratiquement du 100%. Là, il va devoir défendre en mouvement. C'est-à-dire qu'avec des joueurs qui arrivent avec de la vitesse, quelques kilos de plus que lui, il va falloir qu'il fasse les bons choix. Il va falloir qu'on le sécurise depuis l'intérieur. Et Jalibert va passer un test dans ce domaine-là. Mais c'est comme nous quand on va aller chercher Finn Russell. On va lui mettre, parce qu'on sait qu'il défend, mais ce n'est pas un grand défenseur. Mais pour la ligne de trois quarts, pour le système défensif qui est plutôt bon du côté des Français pour l'instant, c'est un test parce qu'on n'a jamais eu une équipe aussi joueuse face à nous ces derniers temps. Donc il va falloir tout contrôler. Est-ce qu'on va vouloir aller les chercher très haut pour les empêcher de toucher ces extérieurs, donc moins exposer Jalibert à une défense, on va dire, en reculant ou justement les attendre pour reconstituer du soutien intérieur et pour glisser vers la touche. Ça sera intéressant de voir quelle attitude on va adopter.
Une équipe écossaise qui, on le disait tout à l'heure, joue souvent au yo-yo. Elle est capable du meilleur comme du pire. Le meilleur, c'est cette victoire face à l'Angleterre, hein, alors que tout le monde annonçait les Anglais largement vainqueurs, qui avait succédé au pire avec la défaite en Italie. Face au Pays de Galles, il y a eu une première mi-temps catastrophique et la deuxième mi-temps, d'un seul coup, ils se sont mis à jouer le feu. On a l'impression qu'ils choisissent leur match. Alors, est-ce qu'ils vont choisir de jouer contre nous ? On rappelle qu'une victoire face à l'équipe de France leur permettrait d'envisager la victoire dans le tournoi. L'Écosse
à Dublin
qui n'a jamais oui mais l'Écosse n'a jamais j'ai regardé ça dans les stats qui n'a jamais remporté le tournoi des Six Nations. La dernière victoire écossaise dans la compétition remonte à 1999. À l'époque, il n'y avait que 5 nations. Ils sont donc les derniers vainqueurs de ce tournoi là et le passage à 6 ne leur a pas porté bonheur. Alors sait-on jamais cette année. En tout cas, c'est une nation qui a vu par exemple le Pays de Galles s'écrouler et qui continue malgré tout à présenter des joueurs de qualité, une équipe de qualité, alors qu'ils jouent vraiment avec des bouts de ficelle quand même, les Écossais. Il n'y a pas énormément de moyens et il n'y a pas énormément de joueurs non plus.
Ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'on parle de ces Écossais, on trouve beaucoup de qualité. Encore, on n'a pas évoqué ils sont moins puissants que nous, mais des Fagerson, des Darge, c'est le meilleur plaqueur du tournoi. Ils n'ont pas de rate, quoi. Ils sont tous sur les rucks, la conservation de balles. On a parlé de la ligne de trois quarts. Et pourtant, les Écossais, en moyenne, c'est, sur ces dernières années, quatrième, cinquième, troisième, quatrième, quatrième. Voilà, ils jouent pas pour la gagne du tournoi, en fait, quoi. Jamais. Ils ont peut-être jamais été aussi bien placés, avant de jouer la France, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, cette régularité. Tu l'as dit, Christophe, même si en Italie, bon, ils sont tombés sur une journée à Rome où il pleuvait terrible, ils ont eu 65% de la balle quand même. Donc je pense qu'ils pouvaient gagner en Italie. Les Italiens ont été réalistes, mais donc voilà, c'est quelle Écosse on aura face à ces Bleus samedi, c'est leur problème.
Tu parlais du voyage à Rome après pour les journalistes. Imagine les pauvres journalistes écossais, ils se sont tapés le seul week-end à Rome où il pleut.
Ça c'est pas de bol.
Après pour cette équipe écossaise, on sait qu'ils ont toujours eu un 15 de départ qui tenait à peu près la route, c'est la profondeur de banc. Le joueur qui est rentré, c'est pas pareil. Et là, on a l'impression qu'avec ces clubs écossais, ces provinces, on va dire presque clubs, qui essayent de construire sur deux équipes et puis de rassembler leurs joueurs et qui jouent un maximum de temps et ensemble. Regardez le paquet d'avant, c'était 6, je ne veux pas dire de bêtises, 6 sur 8 face à l'Italie de la part du côté du Stade Toulousain. Ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils travaillent ensemble un maximum de temps s'ils voulaient rivaliser. Et d'avoir des seconds couteaux, des remplaçants de haut niveau. Sinon, ils ne peuvent pas lutter avec les nations où il y a énormément de licenciés. Oui.
Jetons un petit œil sur le classement de ce tournoi. La France, pour l'instant, est la seule nation encore invaincue et qui caracole en tête avec 15 points. Ce qui signifie qu'une victoire samedi leur offrirait la victoire finale. Wilfried, c'est aussi simple que ça ou il y a quelques petites subtilités
quand même ?
Victoire
bonifiée, il me semble.
Avec le bonus.
Avec le bonus
offensif, en fait. Donc, oui, il faut gagner.
Il faut 5 points.
Après, Ouais, vous savez très bien que dans ces bonus-là, qui ne sont pas les mêmes qu'en top 14, c'est pas trois essais d'écart. C'est que, généralement, vu l'attaque, la tournure que ça a pris, la prime à l'attaque, on les a souvent, hein, les quatre essais, hein, donc, c'est pas si dingue. Je pense que si la France gagne, à chaque fois que la France gagne, elle a ce bonus offensif. Donc, il faut gagner avec le bonus offensif. Et on pourra se tourner vers les Anglais pour parler de Grand Chelem et on aura gagné le tournoi. Ce sera déjà pas si mal. Mais c'est la condition pour remporter le tournoi samedi soir.
D'accord. Wilfried, là, pardon, j'ai une stat, mais si la France gagne avec bonus, il va arriver bon, pour le Grand Chelem face à l'Angleterre, est-ce qu'il y a une équipe qui a gagné tous ses matchs avec le bonus à chaque fois et vainqueur du tournoi, forcément?
Bonne question. Colle. Ça, je l'avais pas prévu, mon petit coquin.
Ça y est,
je vous remercie d'avoir posé.
J'y suis arrivé à le coller, ça y est.
Bien sûr, Cédric, ça a dû arriver. Je vais te préciser ça dans un instant.
Voilà. Allez, un petit coup de lien, et puis je vais voir. Il va te donner la réponse dans deux minutes.
Dis Siri.
Non, Cédric. Dis pas... Cédric, vas-y, essaye.
J'avais pas coupé le micro, pardon.
Les Bleus qui se sont retrouvés donc. Dimanche soir à Marcoussis.
C'est tout simple, c'est la France en 2022, hein, déjà pour nous, en ce qui nous concerne. On avait gagné nos 5 matchs
avec bonus.
Ouais. Ah ben
voilà, il ne faut pas remonter très loin. Le dernier grand chelem de l'équipe de France. Parfait, bah, voilà. Tu vois, il a réponse à tout.
On peut en trouver d'autres peut-être, mais voilà.
Ouais. Les Bleus qui sont donc à Marcoussis pour préparer ce match, ils s'envoleront pour Édimbourg vendredi seulement, je crois. Quant à la compo, elle sera communiquée jeudi à 11h30. Une première liste de 42 avait été dévoilée vendredi. Depuis, il y a eu quelques petits changements dû évidemment des blessures. On va faire le point avec toi, Julien. Qui est à l'infirmerie? Qui est sorti du groupe? Qui va y entrer? Il y a eu quelques petites nouveautés depuis quelques heures.
Alors, Tevita Tatafu, est-ce que c'est vraiment une surprise?
Est-ce que c'est vraiment un joueur de rugby encore?
Non, mais il est appelé et du coup sorti blessé du côté de Clermont, remplacé par Demba Bamba. Et on a vu Hugo Radu aussi hier soir sortir le palois, se faire poser un strap. Et on a appris ce matin qu'il était forfait, remplacé par Cameron Wauki. Et c'est là où tu te dis que les 19 joueurs protégés quand même pour Fabien Galthié, c'est une bonne nouvelle parce que ça évite à ces joueurs de se blesser. Il faudra suivre aussi Baptiste Serin qui est sorti sur un protocole commotion du côté de Lyon samedi après-midi. Voir s'il est en mesure de tenir sa place ou pas avec le retour de toute façon de Nolan Le Garec dans les 42. Ça offre une solution de plus à Fabien Galthié. Mais voilà, c'est vrai qu'avoir protégé 19 joueurs, les 15 titulaires plus ceux qui ont le plus joué, ça permet à Fabien Galthié de démarrer la semaine un peu plus tranquille. C'est les, on va dire, pas les seconds couteaux, mais ceux qui font le nombre sur les séances d'entraînement qui ont perdu des points un petit peu ce week-end.
Le mollet de Jalibert, il inquiète encore le staff médical ou non, Julien?
Il avait annoncé 10 jours.
Normalement, non.
Moefana a repris hier soir, c'est une bonne nouvelle. On nous annonce que Deporter a repris la course aussi et qu'il devrait prétendre à une place parmi les 23 ou parmi les titulaires. Et Mathieu Jalibert, la veille de France-Italie, on nous avait annoncé 10 jours. Donc on va avoir dépassé les 10 jours, donc une reprise en douceur en début de semaine pour se tester et voir si le mollet tient pour aller tenir sa place en Écosse samedi prochain.
Non, mais Jalibert, ils n'ont pas pris de risque.
Non.
Ils ont surtout voulu le protéger en vue de la victoire face à l'Italie et puis d'être présent pour les deux derniers matchs.
Ouais. Romain Ntamack, lui, toujours pas prêt. Hein. Il n'est pas rappelé en équipe de France, évidemment, mais il est toujours inapte, je crois, à jouer. Hein, Wilfried.
Oui, il doit reprendre cette semaine. Et je, mais en gros, je vous ai dit une bêtise. Hein. En 2022, on n'avait pas fait le bonus à chaque fois, Cédric. Mea culpa. Parce qu'on avait gagné, je me rappelle qu'on avait gagné 13-9 au Pays de Galles. Donc on n'a pas encore parié. mais je vais chercher ça. Alors, Ntamack, normalement, il est débarrassé de ses soucis à son rein. Souvenez-vous, quand il a repris au lendemain de France-Irlande, il a annoncé une petite blessure musculaire. C'était peut-être un peu plus qu'une petite blessure musculaire, c'était à l'ischio. Il avait la semaine dernière, juste après le France-Italie, il se testait pour courir, mais il y avait le match de Toulouse-Montauban et après pas de match pendant deux week-ends pour le Stade Toulousain, donc il n'y avait aucun intérêt à se presser en fait, donc on a décidé de vraiment le laisser prendre son temps. Donc la semaine où on se parle, la semaine de préparation d'Écosse-France, il reprend la course, là normalement il est débarrassé de ses pépins physiques, mais c'est trop tard pour lui puisqu'il n'a pas joué depuis plus de deux mois. C'était fin décembre son dernier match face à La Rochelle. On ne peut pas le faire reprendre comme ça et le mettre sur un Angleterre, un France-Angleterre, si jamais il y avait un souci, s'il fallait l'appeler, alors qu'il n'a pas joué depuis en janvier, en février, quoi, deux mois et demi même. C'est impossible. Donc je pense qu'il va se concentrer sur le UBB Toulouse du 22 mars et pour ensuite reprendre le cours de sa saison, mais c'est terminé pour lui pour le tournoi destination.
Bon, un petit mot sur le poste de pilier droit qui continue de poser problème. Donc après la retraite d'Antonio, après la blessure de
Régis Montagne.
De Montagne, le Clermontois. Cette fois-ci, c'est donc Tatafou qui ne peut toujours pas faire l'affaire. Et on rappelle Bamba. Alors Bamba, c'est toujours une énigme lui aussi. Il a disputé un match avec l'équipe de France en tournée l'été dernier. Que devient celui que l'on considérait à l'époque comme une future star à ce poste-là ? Ça fait quand même des années maintenant, hein, Julien.
Oui, bah là c'est compliqué. Il a été appelé à Marcoussi, il s'est coincé le dos. Le problème c'est que c'est plus un joueur de rugby aujourd'hui.
Ouais,
donc et si à chaque fois qu'il revient, il se blesse, évidemment c'est compliqué. Alors je pense que pour lui psychologiquement, le fait que Fabien Galthié le rappelle en permanence, ça doit lui faire du bien en se disant mais voilà, je suis toujours dans les petits papiers. Mais il va falloir aussi qu'il enchaîne quelques performances pour pouvoir qu'on puisse compter sur lui. Au moins pour l'Australie, là, je pense que pour le tournoi, c'est fini. Mais il va falloir que. On parlait tout à l'heure de la préparation invisible de Finn Russell. Peut-être que Tevita Tatafu, dans la préparation invisible, il ne fait pas non plus tout ce qu'il faut aujourd'hui pour répondre aux attentes du haut niveau. Et que c'est quand même fou d'être systématiquement blessé lorsque l'équipe de France fait appel à lui. Parce que ben, là, on se retrouve avec Dorian Aldeguerri qui fait le travail en mêlée, mais qui est, on l'a dit depuis de longues semaines, au niveau international, ça reste un peu léger. Il y a Demba Bamba, dont on a beaucoup attendu, qui est rappelé là, mais quel est son niveau aujourd'hui ? Voilà, c'est une vraie lacune à droite, et on s'en est rendu compte contre les Italiens, qui ont une très très grosse mêlée. Mmh. Donc voilà, c'est un vrai problème, et je pense que Fabien Galthié se creuse la tête de savoir qui va pouvoir mettre à ce poste-là.
Exactement. Alors, il y a deux interrogations, Wilfried, je crois, concernant la composition de l'équipe de France. Une interrogation en deuxième ligne, une interrogation au centre de l'équipe de France. La deuxième ligne, on a vu que les Guillard et Olivon avaient fait le poids, mais c'était pas face à l'Italie. Face à l'Italie, on a rappelé du costaud, avec Meafou notamment, qui a fait beaucoup de bien. Vers quelle option se dirige-t-on pour affronter l'Écosse à ce poste-là ?
Je sais pas, et toi ?
Nostradamus, que vois-tu dans ta boule de cristal ?
Non, mais au moment où on se parle, les Bleus arrivent juste à Marcoussi. Hein, ils ont il y aura peut-être ce qu'ils appellent la clarity ou le clarté. La clarté, c'est un entraînement en marchant aujourd'hui lundi. Premier entraînement le mardi, mais les Palois et les Bordelais de la liste ne peuvent pas s'entraîner. Il y avait quand même 19 joueurs protégés. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai pas la réponse, hein, je te le dis franchement. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Et on va poser la question à Cédric parce qu'on a alourdi le pack avec Flamand et Meafou. Flamand qui avait eu un petit pet au mollet après l'Italie, mais ça devrait aller. On avait enlevé cette deuxième ligne Olivon Guillard qui avait extrêmement bien marché sur les deux premiers matchs. À juste titre, on avait mis Flamand Meafou pour relever le défi. On a vu qu'il le fallait face au pack italien. Qu'est-ce qu'on fait face à un pack écossais qui semble, Cédric, un peu plus léger que le pack italien ?
Moi, je mettrais Olivon Guillard et pour venir enfoncer le clou Meafou. Parce que ça va courir, il va falloir avoir une envergure de course au-delà de ce qu'a fait Meafou, qui a fait un drôle de match. Hein. Meafou, il a fait un énorme match, mais on sait que on sait que son rayon d'action est aux alentours des 5-10 mètres des rugs, gros porteurs de balles. Mais là, on va avoir besoin de courir. Aldeguerri, même si on le sait, court pas beaucoup. Et il a fait d'énormes progrès parce que depuis le début du tournoi, il se bouge. C'est sur des équipes joueuses comme ça où il va falloir mettre des joueurs qui courent beaucoup. Et à l'heure de jeu, ou à la 50e, 55e, parce qu'on fait rentrer plutôt de bonheur du côté de l'équipe de France, là, tu fais rentrer un Meafou qui vient tout caler, gros porteur, qui va jouer sur des joueurs soit moins frais ou soit d'un joueur de niveau inférieur à lui, je parle des remplaçants écossais, je pense que c'est la bonne alchimie pour la composition d'équipe.
Bon, nous verrons ça donc pour les deuxièmes lignes. Et puis la paire de centres, là aussi, y a le choix, puisque tout le monde est opérationnel, que ce soit les Palois, Broboiry et Gaëton, ou les Bordelais, Moefana et Deporter. Là aussi, a priori, ce sont les Bordelais qui partiraient avec une longueur d'avance, Wilfried, Julien.
Bah, je sais pas, Julien, mais alors pour enlever, c'est le dilemme quand même. Oh, vas-y, on enlève Brobouari. Ah oui, avec ce qu'il a fait, c'est incroyable. Ouais. Mais Julien, c'est que Brobouari n'a jamais mis Merrifield et dans une ambiance hostile dans ce genre de match. Moefana a plus d'expérience que lui, même si je sais que bah, toi comme moi, comme tout le monde, se posait la question d'enlever Brobouari. Enfin, Moefana c'est 37 sélections, hein. Brobouari ça fait que 2. Enlever Brobouari c'est quand même un geste fort aussi, vu le côté complet de ce joueur, de ce qu'on a perçu sur les deux matchs.
Ouais, mais Wilfried, tu ne peux pas donner comme argument qu'il n'a jamais vu Merrifield. À ce compte là il ne verra jamais Non, moi je pense qu'il faut le laisser sur le terrain. Il est en feu, jouons là-dessus. Il est en feu, il est en pleine confiance, il a une palette complète. Il faut le laisser. Il est en pleine confiance, il doute pas. Ouais, on a l'impression que la pression le touche pas.
Après Cédric, il va falloir leur faire mal.
Attention
au milieu
à tout
du terrain.
Quand même en face. Ouais, hein,
il va falloir leur faire mal au milieu du terrain. Et on sait que Moefana. Alors autant Brobouari, il a fait des choses très bien, mais on l'a pas forcément vu dans le registre que peut avoir Moefana. Ce premier joueur qu'on lance au milieu du terrain, qui va faire un gros point de fixation, ce qu'avait fait d'ailleurs Moefana il y a 2 ans, ce que Brobouari fait pas encore très bien, et c'est d'ailleurs pas forcément sa palette, il est plus joueur que perforateur. Ouais, non, mais c'est pour ça, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi, Cédric, d'avoir un gros perforateur au milieu avec Moefana, de faire des gros points de fixation, tu l'as dit, d'aller viser Finn Russell? Est-ce qu'il faut pas que Moefana aille taper sur Finn Russell pendant une heure? Voilà, ça va être ça, ouais, aussi la question. Après Brobouari, il est très fort, hein. Moi,
tu peux taper sur Finn Russell avec ta troisième ligne. Tu peux faire touches réduites pour aller justement l'user et resserrer l'équipe adverse et dans un second temps déployer un peu plus au large. Je le conserverai. Honnêtement, j'entends ce que vous dites.
Ouais, mais peut-être la question, Cédric, du deuxième centre et de porteurs aussi, qui semble être apte. Donc on rappelle, hein, qu'au moment où on vous parle là, on n'a pas les infos de l'entraînement de Marcoussi, mais parce que si on fait un choix de Moefana, ça veut peut-être dire, ou tu sais très bien que qu'il fonctionne aussi avec les sensibilités des deux joueurs, et que ça serait peut-être Moefana de porter plutôt que Moefana Gaëtan ou Brobouari. Les deux doivent être dans l'équation.
Brobouari peut jouer 13, hein. Brobouari peut jouer 13, il a déjà joué 13 avec la section paloise, hein.
Ouais. Mais la paire de centre de Fabien Galthié du début de tournoi, c'est Moefana de porter quand même.
Oui.
Et que s'il se blesse pas, il change rien, je pense. Hein.
Oui, Wilfried, regarde, par le passé, on pouvait dire ça du décompo de Fabien Galthié. Je pense qu'il a évolué là-dessus et j'en suis ravi, même si je pense qu'il n'a rien à faire de ce que je pense.
Pourquoi tu dévalorises comme ça?
Mais c'est la politique de l'homme en forme me plaît, tu vois.
Ouais.
Difficile
à enlever Brobouari, je suis d'accord
avec toi. Ouais, voilà. Donc, comment tu peux le justifier, hormis sur le plan de l'affinité tactique, Moefana, gros point d'ancrage au milieu du terrain, il peut rentrer en seconde mi-temps. Ouais, là, en tous les cas, c'est un vrai bon casse-tête. Voilà.
Ben oui. C'est bien parce qu'il a l'embarras du choix. D'habitude, ben tu fais avec les moyens du bord. Là, tu as quand même beaucoup de moyens à bord de cette équipe de France. La compo sera communiquée jeudi, avant donc le départ pour Merrifield. Voilà pour aujourd'hui. Merci, monsieur Aymance. Vous avez été parfait. Hein.
Merci.
Je pense que le vieux, là, on va le dégager petit à petit et tu vas prendre sa place. De toute façon, il est toujours en vacances, j'ai l'impression, ce Denis Charvet. On l'embrasse, Denis, évidemment. Il sera avec nous en Écosse ce samedi. Merci, Julien. Merci, Wilfried.
Ciao.
On se retrouve donc ciao. Samedi. Coup d'envoi à quelle heure, ça part?
15h10.
C'est un match difficile, 15h10. Tu finis juste ton repas, c'est compliqué.
Tu finis juste ton repas, mais en revanche, pour l'apéro, c'est drôlement pratique, parce qu'à 19h, t'as fini. Les autres, ils vont bosser encore.
Oui, t'as fini, mais ceux qui travaillent vraiment, non.
Merci, messieurs, bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, Cédric, merci.
Ciao.